commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bienvenue dans Accent d'Europe. Nous allons nous tourner tout d'abord vers l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne où l'Église catholique a fait campagne contre l'extrême droite ces derniers mois. Les évêques allemands ont même pour la première fois appelé à ne pas voter pour l'AfD, le parti nationaliste qui a obtenu près de 16% des voix dimanche aux élections européennes. Notre correspondante Delphine Herbollier est allée à la rencontre de ces catholiques engagés dans la ville d'Erfurt, dans la région de Thuringe, dans le centre du pays, l'un des bastions de cette nouvelle extrême droite allemande qui inquiète. On écoute son reportage.
Nous sommes à Erfurt, à un croisement de rues piétonnes parmi les plus animées de cette petite ville de Thuringe. C'est ici que l'évêque Ulrich Neumeier est venu serrer des mains. Sa ville a récemment accueilli les journées catholiques, un rendez-vous qui a réuni 20 000 visiteurs venus de toute l'Allemagne. Cet évêque ne cache pas son opposition à l'extrême droite, très forte et très radicale dans sa région et plus largement dans l'est du pays. Ce religieux a été l'un des premiers à dénoncer le danger lié au parti Alternative pour l'Allemagne, l'AfD.
En janvier, nous, les évêques des diocèses de l'Est, nous avons publié un texte pour renforcer la démocratie, dans lequel nous avertissons sur le fait que l'AfD veut affaiblir les structures démocratiques et surtout qu'elle représente des idées ethniques nationalistes. L'AfD est très à droite en comparaison avec d'autres partis de droite européens, au point que le parti de Marine Le Pen en France s'en distancie.
Cet appel des évêques de l'Est a été entendu par la hiérarchie catholique. En février, tous les évêques allemands ont approuvé une déclaration qui estime que les valeurs chrétiennes sont incompatibles avec celles de l'extrême droite. Ils jugent aussi, et c'est une première, que l'AfD ne peut pas être un choix électoral pour les chrétiens. Une prise de position très forte avant les élections européennes et avant trois scrutins régionaux de taille, notamment en Thuringe, où l'extrême droite pourrait arriver en tête en septembre. Henning Flad est spécialiste des questions de religion et d'extrémisme.
Cette déclaration est particulièrement importante. Non seulement elle se distancie du racisme, de l'antisémitisme et de l'extrémisme de droite, mais aussi et surtout elle argumente sur la base de fondements de théologie chrétienne. Elle constate une opposition fondamentale entre l'éthique chrétienne et l'idéologie de haine de l'extrême droite.
Ce positionnement sans précédent des évêques a aussi été accéléré par les révélations en janvier d'un scandale. Certains membres de l'AfD auraient projeté l'expulsion de millions d'étrangers et d'Allemands d'origine étrangère. Un point de non-retour pour les autorités catholiques, par ailleurs offusqué que les responsables extrémistes se positionnent comme les vrais représentants d'un Occident chrétien. Sur le terrain, le danger lié à l'extrême droite est pris très au sérieux depuis des années. À Erfurt, par exemple, les organisateurs des journées catholiques ont refusé d'inviter les élus de l'AfD. Un choix assumé, au micro, dans une rue de la ville, par Wolfgang Klose, l'un des organisateurs.
Le programme de ce parti est hostile à la dignité humaine. Ses dirigeants défendent ses idées, ils n'ont donc rien à faire ici. Leurs électeurs, en revanche, c'est à eux que je veux parler. Il faut que nous nous parlions, il faut leur expliquer les conséquences de leur engagement pour ce parti. Je veux leur expliquer pourquoi ils sont sur la mauvaise voie politique, de mon point de vue de chrétien, au nom du message de Jésus-Christ.
Autre effet de cette prise de conscience, en avril, un élu régional de l'AfD a été exclu par les autorités catholiques d'une fonction qu'il occupait au sein d'une paroisse. Il a été jugé trop radical. De nombreuses associations de laïcs ont elles aussi adopté des mesures d'incompatibilité avec l'AfD. Une bonne chose pour Henning Flad, même si selon lui, ces mesures devraient rester limitées.
Sur le fond, il faut reconnaître que l'AfD dans son ensemble est implantée dans des milieux qui sont généralement éloignés de l'Église. Les gens de l'AfD sont clairement sous-représentés dans les structures paroissiales, par exemple. L'AfD est toujours très forte aux élections dans les régions où les liens religieux sont faibles. On peut dire que l'engagement actif dans une église est un fort moyen de prévention contre l'extrémisme de droite.
Herzlich willkommen im Bistum Dresden-Meißen mit Brot und Salz.
Sur le terrain, prêtres et bénévoles sont donc appelés à marquer une ligne claire contre l'AFD, tout en maintenant le dialogue. Plus facile à dire qu'à faire, selon Gerda Panglitsch, elle est engagée dans une paroisse de Dresde.
Cela demande toujours beaucoup d'efforts pour se dire « je veux parler avec ces gens ». Ils ont des arguments et tellement de force, surtout les jeunes. Les jeunes de l'AFD sont souvent très agressifs. Je vous le dis honnêtement, c'est dur, c'est très dur.
Cette agressivité touche surtout les laïcs qui travaillent auprès des migrants dans des petites communes. En Allemagne, les deux églises, catholiques et protestantes, jouent un rôle central dans ce domaine.
L'Union européenne sort à peine d'un week-end électoral où les plus de 360 millions d'électeurs du vieux continent se sont rendus aux urnes. C'est l'occasion pour Accent d'Europe de proposer un inconnu comme Européen de la semaine. Je veux parler du futur président ou de la future présidente de la Commission européenne. L'actuelle présidente Ursula von der Leyen souhaite être reconduite pour un deuxième mandat, mais il va donc lui falloir rassembler une majorité sur son nom. Daniel Valot.
En 2019, Ursula von der Leyen a été investie avec seulement 9 voix d'avance. À l'issue de ces nouvelles élections, il va donc lui falloir batailler pour obtenir une majorité, ce qui n'a rien d'évident. Sébastien Maillard, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors.
Le Parti populaire européen, donc le parti qui fédère les partis de droite, devra bien composer, comme il l'a fait par le passé, avec les sociaux-démocrates, qui sont le deuxième groupe le plus important. Et tout l'enjeu, c'est de savoir c'est qui sera le troisième. Est-ce que le troisième, ce seront les centristes libéraux emmenés par la majorité présidentielle Macron en France, ou est-ce que ce sera peut-être le groupe présidé par Giorgia Meloni d'Italie?
Alors, quelle sera la partition que décidera de jouer Giorgia Meloni? Deux possibilités s'offrent à la dirigeante italienne. Se tourner vers la droite conservatrice et donc vers Ursula von der Leyen, ou bien répondre à l'offre lancée par Marine Le Pen pour une alliance des extrêmes droites à Strasbourg. Un deuxième scénario qui a bien peu de chances de se réaliser, en tout cas aux yeux de Sébastien Maillard.
Idéologiquement, ce sont des groupes différents. Et si la guerre en Ukraine les a vraiment divisés. Par ailleurs, autant Marine Le Pen a besoin, elle, d'être dans un groupe important qui pèse au sein du Parlement européen pour sa propre influence, mais Mme Meloni n'est pas du tout dans la même position. Elle est au gouvernement, elle a besoin de rassurer aussi tous ses partenaires qu'elle reste quelqu'un avec qui on peut travailler et compter, et pratiquement elle a moins besoin de Mme Le Pen que Mme Le Pen a besoin d'elle.
25% des sièges au sein du nouveau Parlement, cela aura forcément une influence sur l'agenda et sur les orientations de la politique européenne dans les années à venir.
L'Europe vue d'ailleurs, notre série Tour du Monde continue aujourd'hui avec une voix venue du Brésil. C'est celle de Nata, il a 31 ans, il vit à Rio de Janeiro, il travaille pour une marque de vêtements. Nata a vécu en Europe il y a 10 ans et il prévoit aujourd'hui d'y retourner pour ses études. En septembre prochain, il prépare son installation au Portugal avec un peu d'inquiétude. Son témoignage a été recueilli par notre correspondante Sarah Cozzolino.
Je sais que les gens ici dépensent tout leur argent pour déjà se déplacer ou même payer un loyer. Donc il ne reste pas d'argent pour aller au théâtre ou pour voyager ou pour manger un truc différent. Tu vois, en France ou en Europe, je pense que les gens ils ont plus de pouvoir d'achat. J'ai toujours ressenti que j'étais un latino en Europe. La montée de l'extrême droite, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça me fait peur partout. En 2022, c'était la guerre au Brésil, les élections. Et j'ai peur pour l'Europe aussi. Tu vois, au Portugal, on vient... Le premier ministre maintenant, c'est centre-droite. Déjà, ce n'est pas l'extrême droite, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois plus, on donne de la voix à l'extrême droite. Et ouais, du coup, ça me fait peur parce que... Je suis immigrant, je ne suis pas européen, je ne suis pas blanc, donc je suis gay. Et voilà, ça me fait peur.
Vote for we, lad, God, vote for we, hey, vote for we, coda people, vote for we, put down the mic.
La campagne électorale pour les européennes est enfin derrière nous. Mais en France, c'est une nouvelle campagne pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet qui s'est donc ouverte dans la foulée. Or, une campagne électorale, c'est toujours chargé en émotions, non seulement pour les militants qui la font, mais aussi pour les électeurs qui la regardent, avec leurs opinions, leurs préférences, leur morale, leur détestation. Ainsi, notre chroniqueuse Franceline Beretti voulait partager cette semaine ses moments personnels de découragement dans son œil européen.
Ces derniers mois, en Italie, le visage de Silvio Berlusconi était partout. Un hommage à l'ancien président du Conseil ? Non, c'était la campagne pour les européennes de Forza Italia. À chaque occasion, la tête de liste du parti, Antonio Tajani, a rappelé qu'il portait son héritage, comme quand il annonçait un meeting à Naples, fin mai.
Tous ensemble, on se retrouve tous dans la rue. Forza Italia, ses drapeaux, son peuple. Et c'est aussi une façon de commémorer Silvio Berlusconi une année après sa disparition.
Sur Instagram, Forza Italia nous a gratifié de vidéos d'archives de Berlusconi.
Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno.
Et en Italie, pour voter, on fait une croix sur le logo du parti que l'on choisit. Le logo de Forza Italia, les couleurs de l'Italie, vert, blanc, rouge, et l'inscription en gros et en bleu, Berlusconi Presidente, Berlusconi Président. On savait que les morts pouvaient voter, maintenant, ils sont même candidats. La France insoumise a aussi du mal à se passer de son chef. Jean-Luc Mélenchon nous a offert un bon moment gênant pendant cette campagne. Après la dernière élection présidentielle, il avait annoncé se mettre en retrait. Il était pourtant bien là, au meeting de Toulouse, avec sa minute complotiste.
Je vous demande de vérifier que vous êtes bien inscrit. Pourquoi ? Parce que cette semaine sont déjà remontés des témoignages de gens qui ont été radiés des listes électorales. Là, toute la famille d'une camarade députée a été rayée des listes électorales dans une ville où dans le passé il y a eu des problèmes. Vous verrez bientôt de quoi je parle.
C'était embarrassant. S'il y a un problème avec des listes électorales dans une ville, il faut le signaler, dire quelle ville, quel élu. Ces déclarations très vagues ressemblent surtout à de la manipulation. Il y a eu d'autres choses gênantes pendant cette campagne, comme ce post Instagram de la présentatrice Enora Malagré.
Alors si vous voulez une Europe humaniste, écologique, qui œuvre pour le droit des femmes, ça se passe le 9 juin, il faut voter.
Cette publication, c'est un partenariat rémunéré avec On est prêt. On est prêt, c'est une association. Elle mobilise sur les enjeux environnementaux dans des campagnes digitales. Et pour les européennes, elle a payé des personnalités pour faire des vidéos appelant à voter. Certains ont donc touché de l'argent pour porter un message citoyen ou des convictions politiques. Pourtant, si l'on est convaincu, on a envie que ces idées gagnent, d'entraîner les autres. On le fait parce que cela nous semble fondamental. C'est comme si le contenu politique n'avait plus de sens. Et à propos de manque de sens, la télévision publique belge a décidé d'interviewer des candidats dans des manèges et des jeux d'eau. Des candidats aux législatives, car le 9 juin en Belgique, c'était triple élection. Et ça n'a pas contribué à élever le niveau du débat. Je vous mets un extrait du Politic Challenge de l'écologiste Raja Mawan.
Allez, on va passer à la deuxième question vite fait. Alors, finalement, concrètement, quelles sont les propositions pour les jeunes chez Écolo ?
Vous n'avez rien compris ? C'est normal, c'est inaudible. Et dans le genre gênant, il y a eu aussi la campagne de Matteo Salvini et de la Ligue. Son slogan ? Plus d'Italie, moins d'Europe. Sur les affiches divisées en deux, on voyait ce qu'était l'Italie et ce qu'était l'Europe. Un plat de spaghettis appétissant à côté d'une assiette d'insectes, Salvini brandissant un rosaire à côté de Macron habillé en soldat avec un fusil d'assaut, ou la Squadra Azzurra, l'équipe nationale, qui brandit la Coupe du Monde de foot à côté de Zidane qui donne un coup de tête à Materazzi. Tout cela n'a absolument aucun sens, aucun lien avec l'Europe ou d'ailleurs avec le moindre raisonnement construit. Le chef de la Ligue est devenu le professionnel du n'importe quoi et ses communicants sont bien peu inspirés en ce moment. Il semble même qu'ils doivent aller au-delà des frontières pour puiser des idées. Écoutez Marine Le Pen, interrogée sur France Info le 30 mai.
Vous connaissez l'expression populaire, si ma grand-mère avait des roulettes, ça ferait un bel autobus.
Et voici Matteo Salvini, 6 jours plus tard, dans une émission politique.
Si mon grand-père avait des roulettes, il en ferait un chariot de supermarché.
Notez la petite différence culturelle entre les deux expressions. Il y en a une d'autre, des moments gênants dans cette campagne. Alors la bonne nouvelle pour l'Europe, c'est que les eurodéputés élus peuvent maintenant se mettre au travail. La mauvaise, c'est qu'une nouvelle campagne électorale commence en France.
Nous allons prendre l'air en Irlande à présent, et même le grand air sur cette île brossée par le vent de l'océan, où les parcs d'éoliennes se sont multipliés au cours des dernières décennies. Mais une question majeure n'a toujours pas été réglée. Que faire des pales des éoliennes en fin de vie ? Dans le monde, les déchets issus des parcs éoliens devraient s'élever à plus de 6 millions de tonnes d'ici 2050. C'est pourquoi une petite usine de recyclage en Irlande du Nord, Placewire, a décidé de relever ce défi. Reportage Clémence Pénard.
Je te donne des lunettes de sécurité pour te protéger de ce qui pourrait voler dans les airs.
On n'espère pas ?
T'inquiète, on va par là. Bienvenue dans l'usine, c'est un peu bruyant.
Une entreprise de recyclage à 30 km de Belfast. Et ici, les machines tournent à plein régime. D'ici l'année prochaine, à l'échelle mondiale, environ 25 000 tonnes de pales d'éoliennes ne seront plus opérationnelles. Et jusqu'à présent, les options étaient plutôt limitées. Les pales des éoliennes étaient soit mises à la décharge, soit incinérées. Un grand non-non en matière de durabilité, selon Joey. Master en génie mécanique en poche, Joey est l'un des 16 employés de Placewire.
La mise en décharge, après quelques années, les terrains sont gaspillés. En fait, personne ne reprend les pales lorsqu'elles sont en fin de vie, mais nous, nous allons donc pouvoir les réutiliser. Je vois comment l'entreprise pourrait grossir et se développer.
Andrew Billingsley est le directeur général de Placewire. Il y a donc vu une belle opportunité.
Ça, c'est une nouvelle machine qu'on a installée seulement le mois dernier. On va dépenser cette année environ 2-3 millions d'euros en équipement. Et l'année prochaine, 8 millions d'euros.
Alors que la majeure partie d'une éolienne peut être recyclée, les pales, elles, principalement fabriquées à partir de fibres de verre ou de plastique renforcées de fibres de carbone, sont très difficiles à briser. C'est ce que nous explique Andrew, un peu plus au calme dans son bureau.
La durée de vie moyenne d'une pale d'éolienne, c'est généralement 25 ans. De nombreux exploitants s'étaient engagés à assumer la responsabilité du recyclage des éoliennes, mais je ne crois pas que ces entreprises savaient vraiment à quoi s'attendre. Or, ce jour est arrivé aujourd'hui. La mise en décharge sera interdite à travers l'Europe en 2025. Et brûler les pales dans les fours de ciment, ça crée quelques problèmes. Le verre qu'il y a dans les pales fond et ça bouche les fours. Donc incinérer les pales des éoliennes ne s'est pas avéré très efficace. Le recyclage des pales, ce n'est pas pour les âmes sensibles.
Grâce à une technologie qu'ils ont appelée RX Polymère, l'idée est de mélanger ensemble différents plastiques et de produire un polymère intelligent. Andrew assure pouvoir ainsi transformer entièrement une pale en de nouveaux produits, capables de remplacer des matériaux tels que le plastique, l'acier et le béton.
Nous avons là 10 pales qui proviennent d'un site offshore au large des côtes irlandaises. Et ce que tu vois ici, c'était une pale de 54 mètres de haut qui a été coupée en 3 morceaux.
Même découpée, ces pales des éoliennes restent impressionnantes. Ces géants, allongés désormais sur un terrain vague en face de l'usine, proviennent d'Irlande et du Royaume-Uni essentiellement. Mais depuis novembre, Placewire collabore avec la société danoise Ørsted et travaille également avec Vattenfall en Suède, RWE en Allemagne ou encore avec Iberdrola en Espagne.
Si tu regardes sur le côté de la pale, tu vois un QR code. Chaque pale a sa propre identité, comme un passeport. Numéro de série, l'opérateur du parc éolien, la date à laquelle la pale est arrivée ici. Et à la toute fin, chaque produit qui sort de notre chaîne de production a aussi un QR code, qui indique avec quelle pale il a été créé. Donc tu peux t'asseoir sur un banc, quelque part dans un parc, tu peux le scanner et tu verras qu'avant c'était une lame de RWE ou de Vattenfall.
Et Andrew ne compte pas s'arrêter aux déchets éoliens, il veut également s'attaquer à l'aviation. En juin 2023, toujours à l'aide de leur technologie RX Polymère, Placewire s'est lancé dans un projet avec Airbus. Objectif, recycler les cabines de leurs avions.
C'était Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Restez avec nous, l'information continue sur RFI.